Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les stratégies des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF Info, et je suis accompagnée de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour recevoir notre invité du jour, Pascal Grandin, directeur de l'IAE de Lille. Bonjour Jérôme et bonjour Pascal.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
Bonjour Pascal.
Pascal Grandin, vous avez pris la direction de l'IAE de Lille en 2020, avec la mission de mener la fusion entre ce qui était déjà l'IAE et deux autres entités qui avaient précédemment fusionné entre elles, la Faculté de Finance, Banque et Comptabilité et l'Institut du Marketing et du Management de la Distribution au sein de la grande et nouvelle Université de Lille. Mais avant de parler de ce vaste mécano institutionnel et des bénéfices que l'IAE en a tirés, dites-nous ce qui pousse un prof de finance qui a eu pendant 13 ans, je crois, un pied à l'université et un pied dans une école de commerce, en l'occurrence Schema, à basculer complètement vers le versant universitaire de sa carrière. Quelles sont les raisons pour un prof de choisir tel monde plutôt que tel autre? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la liberté académique? Est-ce que ce sont les conditions de travail?
Alors, je vous dis tout de suite, le salaire, certainement pas. Donc, on peut éliminer cette hypothèse d'emblée. Alors, bon, c'est un peu le hasard de la carrière. À l'origine, je suis quand même professeur d'université. Puis, il s'est trouvé qu'il y avait des liens, donc, quand j'ai intégré l'université de Lille à l'époque, donc l'IAE de Lille, donc des liens assez étroits, donc entre certains collègues de l'université de Lille et puis à l'époque, ce qui était donc le ESC Lille. Et on m'a demandé donc de participer aussi aux enseignements de l'ESC Lille. Et voilà, j'ai fait aussi une double carrière donc à l'ESL, les Pères Schema, hein, en prenant de plus en plus de responsabilités, bien évidemment, je veux dire, en accord avec le président de l'université. Donc le problème, c'est qu'au bout, comme vous l'avez dit, de 13 ans de carrière dans les deux institutions. Alors, quand j'ai les deux institutions, c'est un peu plus compliqué, parce qu'au départ, j'étais Lille 1, je suis parti à Paris, en poste à Paris 12, 5 ans, 2 ans après le concours d'agrégation du supérieur, parce que j'étais tout simplement parisien, je suis revenu après, cette fois-ci, à Lille 2. Et donc, j'ai quand même conservé donc, mes responsabilités donc, successives à l'ESC Lille et à Schema. Et il y a un moment, on ne peut pas cumuler des postes de direction importants dans les deux institutions. Et j'ai choisi de revenir à mon métier premier, qui est l'université.
Ok. Vous connaissez donc bien ces deux univers, celui des business schools, celui des IAE. Quel regard vous portez sur l'un et sur l'autre? Quels sont les plus et les moins, les atouts et les handicaps des deux?
Alors le plus du privé, je dirais peut-être l'agilité, peut-être une plus grande réactivité, hein, plus de moyens aussi, ça c'est clair, hein, plus de moyens financiers, la facilité de faire des choses. C'est un peu plus compliqué du côté de l'université, parce que du côté de l'université, on est pris dans des carcans administratifs qu'on est obligé de respecter. Hein, ce qui bloque parfois les développements qu'on voudrait faire. Et puis à l'université, l'IAE, comme l'ensemble des composantes, et comme son nom l'indique, est une composante de l'université. Donc on fait partie donc, d'un ensemble, et on n'est pas indépendant comme on peut l'être dans une business school privée. Voilà, donc on a d'autres avantages. Les avantages, c'est justement qu'on fait partie de l'université, avec les moyens de l'université. Mais par contre, évidemment, peut-être moins d'agilité, peut-être moins de possibilités de faire des choses qu'on voudrait faire, et peut-être plus de possibilités d'avoir des stratégies innovantes du côté des business schools. Mais bon, ceci dit, je dis ça, je pense qu'on a quand même une certaine liberté de faire des choses à l'IAE.
Aussi à l'IAE.
Et merci à notre président.
Ça, c'est une vraie différence avec les business schools, peut-être. Il y a une autre spécificité dans votre parcours personnel, c'est le temps que vous avez passé au milieu des années 2010 à développer une école à l'étranger, l'ESA d'Alger, École supérieure des affaires, dont vous dites d'ailleurs qu'elle est à ce jour la plus grosse collaboration scientifique entre la France et l'Algérie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quelle est l'ampleur de ce projet? Quelle part vous y avez prise exactement?
Alors je fais juste une petite correction, c'est avant 2010, parce que maintenant ça fait quasiment 20 ans. Et donc, c'était donc quelque chose qui avait été donc créé à l'origine d'une visite diplomatique de Jacques Chirac au président Bouteflika. Il y avait eu la décision de créer un établissement donc franco-algérien. Et donc, on a été donc intégré dans le consortium donc initial. Donc maintenant, donc on délivre des licences et des masters donc en Algérie. Donc on a à peu près 600 étudiants là-bas. Et c'est effectivement la plus grosse coopération scientifique entre la France et l'Algérie. C'est un actif important pour le ministère des Affaires étrangères donc en Algérie. Ce qui amène les collègues à aller régulièrement donc enseigner là-bas. Et bien évidemment, on a la totale maîtrise de deux diplômes sur place. Alors, il se trouve que j'étais donc, avant d'être directeur de l'IAE, je m'occupais des relations internationales de la faculté FFBCI et MMD. Hein, et c'est moi qui gérais personnellement la relation entre les deux établissements et j'ai continué donc à la gérer.
Combien d'étudiants ?
À peu près 600. Hein, 600, on a à peu près... alors, pas tout à fait 600. En fait, on a à peu près 300, un peu plus de 300 étudiants en licence, un peu plus de 200 en master. On est entre 500 et 600.
Alors, parlons un peu de cette IAE de Lille fusionnée, puisque c'est devenu le plus gros des IAE derrière celui de Lyon avec ses 4400 étudiants. Et contrairement à beaucoup d'IAE, vous couvrez toute la gamme, hein, depuis le post-bac avec des licences et puis les masters, bien entendu, et le doctorat à la fin. Alors, quelle est la place de cette institution aujourd'hui dans le paysage lillois de l'enseignement supérieur en gestion, qui est déjà assez chargé, puisqu'il y a trois concurrents bien connus, Schema, IESEG et EDEC, sur le même territoire ?
Alors, trois effectivement concurrents privés, donc très très connus au niveau national. Hein, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, pléthore aussi d'établissements privés qui ne sont pas de ce qu'on appelle parfois, qui ne sont pas non-profit, hein, qui sont des établissements lucratifs, hein, qui se développent et qui nous créent aussi de la concurrence. Hein, donc ça ne faut pas l'oublier. Alors nous, notre force, c'est d'être universitaire. Hein, c'est universitaire et donc, comme je disais tout à l'heure, de bénéficier aussi donc, des moyens de l'université, des ressources de l'université. Hein, et la taille donc, qu'a atteint l'IE de Lille maintenant nous permet d'offrir donc, des services, je pense, hein, de la qualité de celle des business schools que vous avez citées. Alors, quand je dis des services de qualité, c'est des services de stage et carrière, hein, des services de relations internationales, des services de communication, un service qualité, etc. Hein, quand on veut effectivement faire les choses correctement, il faut plusieurs personnes à chaque fois dans ces services. Hein, et bien évidemment, la taille des services dépend de la taille de l'institution. Donc, on a atteint cette taille critique pour pouvoir offrir donc, des services dignes de ce que peuvent attendre les étudiants dans une business school. Il se trouve que nous, on est quelque part une business school, donc publique, hein, qui concurrençons les business schools privées.
Est-ce qu'il y a plus de marge de manœuvre pour développer que ce n'était le cas par le passé ?
Alors oui, avec les contraintes que j'évoquais tout à l'heure de l'université, mais effectivement, on a possibilité finalement de faire des choix stratégiques qui nous sont propres, hein, et de pouvoir bien évidemment avec l'accord de l'université, hein, de pouvoir effectivement s'engager sur ces stratégies.
Et en termes de visibilité, notamment vis-à-vis des étudiants que vous recrutez, est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir l'appellation IAE sur l'ensemble de l'offre de formation ou...
Probablement. Bon, l'image des IAE est très très forte en France. Hein, c'est vrai que quand on était strictement FFBCI et MMD, je dis quand on était parce que je suis moi issu de la faculté de sciences en comptabilité, hein, donc il n'y avait sûrement pas l'image, hein, qu'on pouvait avoir, notamment au niveau national. Hein, on était très connus au niveau local, donc on avait notamment pas mal de relations avec les entreprises locales, hein, et notamment pour développer donc les formations d'apprentissage. Hein, mais c'est vrai que le fait maintenant d'être un ensemble regroupé donc, sous le chapeau IAE bénéficie à l'ensemble des formations de la fusion.
Alors, quand on dit fusion, souvent on parle aussi d'immobilier, puisque quand vous êtes encore un peu éclaté, puisque je crois que vous êtes aujourd'hui sur Roubaix, Moulins et le Vieux-Lille, qui est l'emplacement historique de l'IAE en plein centre-ville, est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui sur les possibilités qui s'offrent à vous pour essayer de regrouper tout le monde et donc de bénéficier pleinement des éventuelles synergies ?
Alors, ce sont des chantiers, donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc longs et compliqués. Donc moi, j'avais dans mon programme donc pour être élu, effectivement, je souhaitais que la décision de localisation unique se prenne sous mon mandat. Honnêtement, il me reste 2 ans à faire et je suis un peu plus pessimiste. Alors j'espérais qu'on puisse rester sur le site Vieux-Lille et regrouper donc tout le monde sur le site Vieux-Lille, mais c'est très compliqué institutionnellement parce que le site appartient à la mairie de Lille. Hein, et donc, il y a une partie du site qui est à rénover et les travaux coûtent très très cher. Il ne faut pas oublier aussi que le site est monument historique, hein, ce qui nous crée pas mal de contraintes. Voilà, donc pour l'instant ça reste encore ouvert. Et honnêtement, il n'y a pas de pistes actuellement qui sont sûres à 80%.
Hein. Il faudra vivre.
Tout reste ouvert et pour l'instant, il faudra donc cohabiter sur les trois campus. Encore quelques temps. Même si la décision se prenait aujourd'hui d'avoir, je parle ici, je fais de la politique fiction, hein, d'avoir un bâtiment unique quelque part dans l'île. Encore faudrait-il avoir les financements, commencer les travaux, etc. Hein, ce qui prendra bien évidemment.
Mais pour vous, ce qui vous manque le plus, c'est la prochaine étape stratégique de l'IAE, c'est ça, vraiment arriver à avoir un site unique et un emplacement emblématique
Alors, c'est quelque chose d'important, je pense, pour l'image de l'IAE, oui. Si on pouvait être regroupé sur le site historique de l'IAE de Lille, hein, qui est un très très beau bâtiment, c'est vrai que c'est une belle image. Hein, donc, nous donnerions donc, à l'ensemble de la communauté, et puis notamment des IAE donc, en France. Bon, encore une fois, ça risque d'être un peu compliqué, hein, mais je pense que c'est quelque chose effectivement qui serait important pour finaliser complètement la fusion. Le temps qu'on ne sera pas rassemblés sur un seul site, la fusion ne sera jamais vraiment terminée.
Aboutie.
Même si, encore une fois, les choses avancent et les collègues maintenant se connaissent bien, ont l'habitude de se voir, etc. Au bout de 3 ans de cohabitation et de vie commune, les choses se feront. Mais, mm-hmm. mais comme vous le savez, dans le cas des entreprises, les fusions, ça prend aussi du temps. Hein, je dirais à être acté, et donc je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas différent des autres. Hein. Il faudra quelques années pour que la fusion soit complètement finalisée.
Alors, on aimerait vous faire parler de vos relations institutionnelles avec l'université de Lille. Quand Éric Lamarque, directeur de l'IAE de Paris et président du réseau des IAE, est venu nous rendre visite dans ce podcast à l'automne dernier, il a pointé les difficultés qu'avait de manière générale, les IAE à se faire entendre au sein de leur université de rattachement. Ils préparaient même à l'époque un vademécum des bonnes pratiques de la gestion d'un IAE à destination des universités, qu'il était, je crois, allé présenter à France Université. Vous, comment vivez-vous votre relation avec l'université de Lille? Est-ce qu'elle vous laisse les moyens d'exister et de prospérer?
Alors, je vais commencer par dire oui. Hein, nous laisse les moyens de vivre et puis de prospérer. Alors après, bon, ce que disait Éric, je pense que c'est vrai. Donc, dans tous les IAE, hein, et à des degrés divers. Bon, il y a eu quelques événements qui ont été fortement médiatisés, hein, au niveau de certains IAE. Hein, donc, par rapport à ça, nous j'oserais dire qu'on est, hein, qu'on arrive quand même à maintenir les stratégies qu'on veut mener. Bon, il en reste pas moins, bien évidemment, que si on regarde la situation de l'IAE de Lille à l'intérieur de l'université, on est quand même une composante qui rapporte énormément d'argent. Hein, si on regarde le poids des apprentis de l'IAE à l'intérieur de l'université au total, c'est 80 000 étudiants. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous, on est petits. Hein, on est une des plus petites composantes de l'université. Hein, il y a nous, et puis il y a Polytech, l'école d'ingénieurs de l'université, qui sont les plus petites. Hein, et donc, nous sommes des composantes qui rapportent de l'argent, hein, dans le cas d'une université qui était déficitaire. Donc bien évidemment, nos ressources intéressent l'université. Mais je le comprends, encore une fois. Attention, on n'est pas en conflit avec l'université.
Vous pouvez le chiffrer, là, ce que ça rapporte?
Nous, en termes de ressources propres prévisionnelles, sur 2024, on a 13 millions. Hein, 13 millions d'euros, et on fait remonter plusieurs millions d'euros donc chaque année à l'université.
Ah oui.
Hein, donc cette année, je ne sais pas comment ça fera, mais ça fera au minimum autour de 5 millions d'euros, je pense.
Qui remonte à l'université,
voilà. Mm-hmm. Hein, alors attention, le reste est utilisé pour payer des enseignants, pour mettre devant nos étudiants. Hein. C'est pas de la dépense somptuaire, hein, bien évidemment. Hein,
Et votre budget total, c'est combien? Ça, c'est les ressources propres.
Ça, c'est les ressources propres. Alors, budget total, il faut intégrer le salaire des collègues universitaires. Honnêtement, je n'ai pas chiffré la masse salariale chargée des collègues universitaires. Donc ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, l'avantage sur les ressources propres, c'est qu'on a effectivement une faculté de pouvoir l'utiliser, hein, qu'on n'a pas sur les ressources de l'université.
Mmh. Voilà. Mmh. Donc vous diriez plutôt satisfait. Même si...
Satisfait, je vais pas dire non, je vais pas dire ça non plus, bien évidemment. Hein, mais si vous voulez, je trouve normal que faisant partie de l'université, les IAE et globalement l'ensemble des entités qui ont des ressources propres contribuent, hein, au service de l'université. Hein, encore une fois, j'ai choisi d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai choisi de revenir pleinement à l'université, hein, de ne faire que ça. Donc, bien évidemment, je suis attaché à l'université. Je suis professeur des universités.
Mais alors, à l'inverse, donc, les IAE n'ont, pour la plupart, peut-être que c'est le cas dans certains coins de France, mais pas vraiment de problème d'attractivité au niveau des étudiants, comme peuvent en avoir d'autres disciplines en sciences dures, notamment. Et il semble pourtant qu'ils soient condamnés à avoir des taux d'encadrement toujours assez faibles. car ils n'obtiennent jamais, de la part de leur université de rattachement, le nombre de postes à la hauteur de leurs besoins. Qu'en est-il à Lille? Où en êtes-vous de vos ratios d'encadrement? Et aimeriez-vous que l'université redéploie des postes vers votre IAE?
Alors, donc on avait fait un groupe de travail, donc c'était, je voulais d'être nommé directeur de l'IAE. Donc un groupe de travail il y a 3 ans, hein, et on avait donc calculé donc, les ratios pour l'ensemble des composantes de l'université. Donc sur ces ratios, on était dans parmi les derniers, hein, donc ça veut dire parmi les moins bien dotés de l'université, hein, et c'est quelque chose qu'on met systématiquement en avant tous les ans lorsqu'on négocie ce qu'on appelle le dialogue de gestion, pour réclamer des postes. Alors, il y a eu un rattrapage, hein, de ce point de vue-là, de nouveau, je ne vais pas me plaindre, il y a eu un rattrapage, hein, en termes de nomination, donc de collègues, hein, notamment maîtres de conférences. Une précision quand même, hein, lorsque la fusion a été faite comme parfois dans le cadre privé, la fusion est un peu contrainte, hein, et l'université donc avait bloqué les postes aussi, les créations de postes pour nous obliger à fusionner. Hein, donc ici, les postes qu'on a eu, c'est quelque part un rattrapage, hein, de ce qu'on n'avait pas eu avant. Mais enfin bon, maintenant on va dire qu'on a à peu près rattrapé. Ah, mais si on regarde l'ensemble des enseignants-chercheurs, donc professeurs d'université et maîtres de conférences, qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait il y a 5 ans, quand on faisait la somme des 2 entités fusionnées, mm-hmm. On est à peu près donc au même niveau. Voilà.
Donc ça ne vous a pas vraiment apporté de nouvelles marges de manœuvre, finalement.
Donc non. Alors bon, alors après, on a aussi donc des collègues, et notamment administratifs, qu'on paye sur ressources propres. Hein, sur ressources propres. Hein. Si je regarde les personnes administratives de l'IAE, donc il y en a à peu près 100, il y a plus de moitié qui sont financées sur ressources propres.
Mais ça relève de vous. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'une université ne mette pas en face du nombre d'étudiants à peu près le même nombre de profs, quelles que soient les disciplines?
Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'effectivement, on jargue à chaque dialogue de gestion qu'on est sous-encadré par rapport à d'autres composantes. Et vous avez fait la remarque, effectivement, il y a des composantes pour lesquelles il y a encore du personnel en poste, hein, mais qui est en poste, hein, avec dans des filières qui sont de moins en moins demandées, qui sont désertées, voilà.
Oui, puis il y a quand même une fenêtre d'opportunité qui s'offre, puisque j'ai cru entendre récemment que 45% des universitaires allaient partir à la retraite dans une échéance extrêmement courte. Donc, s'il doit y avoir redéploiement, avec en plus la baisse démographique qui s'annonce, c'est maintenant, enfin, c'est dans les années qui viennent.
J'espère qu'on va en bénéficier, tout à fait, j'espère.
D'accord. Donc, c'est un vœu.
C'est un vœu.
Voilà. Alors, maintenant, projetons-nous un petit peu sur l'avenir de l'IAE et sur vos orientations stratégiques. Est-ce que vous avez l'intention d'aller chercher, comme le font beaucoup de vos concurrents privés, des publics étudiants à l'étranger, mais ça veut souvent dire accréditation, que pour l'instant, en tout cas, l'IAE n'a pas. Ou alors, est-ce que c'est plutôt une orientation vers des contrats de recherche, du mécénat, du soutien des alumni? Et puis, vous avez aussi l'apprentissage que vous pratiquez déjà de beaucoup. Donc, est-ce que c'est encore un levier pour l'avenir?
Alors, c'est sûrement un levier. Ceci dit, on ne souhaite pas développer plus que ça l'apprentissage. Cette année, on a plus d'apprentis que de publics en formation initiale, hein, pour la première fois. Hein, on a à peu près 45% d'étudiants en formation initiale et 65% donc en apprentissage. Quand je dis en apprentissage, ce n'est pas tout à fait exact. Hein, c'est le mélange des contrats apprentissage, contrats pro, formation continue, etc. Hein, ce qui est effectivement, je veux dire, donc une masse d'étudiants importante. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà. Alors, je dis ça, mais en même temps, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué parce que les entreprises viennent aussi frapper à notre porte, hein, pour avoir des apprentis. Alors, à partir du moment où il y a une demande de plus en plus forte de la part des étudiants pour faire ce type de formation et qu'il y a aussi une demande de la part des entreprises, hein, c'est un peu compliqué de dire on veut plus. Hein, donc voilà.
Mais en tout cas, ne voudriez-vous plus d'ailleurs?
Voilà, tout à fait.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que une partie des moyens attribués aux universités dépendent des gens inscrits en formation initiale classique. Hein, je pense qu'il faut respecter un équilibre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grosse particularité de l'IAE. Alors peut-être au niveau national, je n'ai pas regardé les chiffres des collègues dans les autres IAE, hein, mais en tout cas, c'est une particularité à l'intérieur du périmètre lillois. Hein, si on regarde le poids de l'apprentissage à l'IAE par rapport au business school qu'on a cité tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous différencie énormément.
Et sur les accréditations et les publics étudiants étrangers
Alors, sur les publics étudiants étrangers, c'est vrai qu'on est peut-être en retard par rapport à d'autres institutions. J'écoutais il n'y a pas très longtemps donc, Hervé Penant, donc à Toulouse, donc, en train de parler de sa stratégie et puis effectivement de son nouvelle accréditation, donc EQUIS, de son classement dans le FT. C'est vrai que nous, on n'a pas entrepris pour l'instant ces démarches-là. Alors, il en reste pas moins que j'ai quand même un directeur adjoint, relations internationales et puis accréditation, puisqu'on s'est quand même inscrit dans l'accréditation ACSB. Mais ça va prendre du temps. Donc,
On sent que ce n'est pas une priorité forte, en tout cas dans votre discours. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de mobilité obligatoire à l'international dans votre IAE. On ne vous sent pas avoir particulièrement envie de figurer dans les grands classements, d'être dans la course des accréditations. Est-ce que vous avez une vision un petit peu plus locale
Alors, pas forcément. Pas forcément. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans le cadre de la fusion, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est compliqué, si vous voulez, d'être un établissement fusionné, d'être encore en train d'harmoniser des choses en interne, et puis de se lancer très très sérieusement dans les accréditations. Mmh. Alors bon, on avait choisi la ACSB, nous. Alors quand je dis on avait choisi, c'était l'ancien IAE. Mmh. Donc on est resté dans le processus d'accréditation, mais à partir du moment où on fusionne, ça prend du temps, quoi. Donc quelque part, on a quelques années pendant lesquelles on n'a pas beaucoup avancé. Mais par contre, il y a quand même une volonté politique forte d'y aller. Donc ça je vous confirme. Alors EQUIS pour l'instant non. Et puis EQUIS, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour nous
par rapport
à CSB. C'est un club plus fermé. Et puis classement du FT, je vois bien effectivement ce que ça peut apporter en termes d'image. Mm-hmm. Mais quand je regarde le recrutement qu'on a donc à l'IAE de Lille, c'est un recrutement. Alors à 50%, c'est le de France, à peu près 15% région parisienne, 15% autres. Et puis après, donc, le reste donc, des étudiants donc, étrangers.
Donc la moitié des Hauts-de-France.
La moitié Hauts-de-France.
Il y a un aspect sur lequel vous, j'allais dire singer les business schools, c'est peut-être un petit peu fort, mais enfin, vous avez essayé de faire un petit peu comme elles, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Et je me suis laissé dire que ça avait fait grincer quelques dents à l'université l'année dernière, parce que vous aviez engagé des dépenses qui ne sont pas courantes à l'université pour ce genre d'événement. Alors que c'est une pratique que les business schools ont vraiment beaucoup menée depuis plusieurs années. Elles en ont fait un moment incontournable de l'année universitaire pour leurs étudiants. Est-ce que c'est une nécessité pour vous de montrer que vous êtes quand même dans ce monde-là et de jouer sur les mêmes leviers d'attractivité?
Alors oui. Alors pourquoi ça fait grincer des dents l'an dernier? Pour deux raisons. Alors premièrement, parce que l'université, encore une fois, est déficitaire. Et certains ont dit, pourquoi est-ce qu'on dépense cet argent pour des diplômes dans le cadre donc, d'une entité? Premièrement. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier que la taille maintenant de l'IAE de Lille n'est pas là, du tout la même que celle de l'ex-IAE. Et ça veut dire que quand on veut faire une remise des diplômes avec l'ensemble des étudiants, bien évidemment, ça nécessite des salles plus grandes. Il n'y en a pas pléthore à Lille, et bien évidemment, elles sont beaucoup plus coûteuses. Donc il y a cet élément déjà conjoncturel pour parler du contexte lillois. Alors après, il faut savoir que l'IAE de Lille, comme d'autres IAE en France, c'est vrai qu'on est dans le domaine de la gestion, et donc on est en concurrence avec les business schools dont on parlait. Et donc il est traditionnel dans les business schools, comme dans les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, de faire des cérémonies de remise des diplômes. Et nos étudiants ne comprendraient pas que l'IAE de Lille ne fasse pas ce type de cérémonie comme le font les business schools. Donc c'est quelque chose qu'on continuera à faire. Je veux bien qu'on fasse des efforts dans le cadre, effectivement, de l'université. Ce qu'on va faire cette année, d'ailleurs, en simplifiant un petit peu la série de remise des diplômes, et en faisant...
En réduisant la voilure.
Voilà, en réduisant un petit peu donc, la voilure, en faisant donc, des remises des diplômes par pôle, donc sur un week-end complet, ce qui nécessitera donc, des frais de salle un peu... Enfin, beaucoup moins élevés. Je veux dire un peu, c'est pas qu'un peu, c'est beaucoup moins élevé.
Mais vous continuerez à faire une cérémonie.
C'est quelque chose qui est important. N'oubliez pas non plus le contexte aussi du confinement. Il y a des étudiants qui ont quitté les bancs d'université, qui étaient en distanciel. Le fait de pouvoir les rassembler à un moment donné, quelque part, ça crée du lien.
Ce que vous avez fait l'année dernière.
Voilà ce qu'on a fait l'an dernier.
Pascal Grandin, je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Malheureusement, ça passe très très vite. Une dernière question traditionnelle dans le grand oral. Auriez-vous un conseil de lecture ou d'écoute pour nos auditeurs qui nous permettrait de prolonger un petit peu cet échange?
Alors oui, donc j'ai un conseil de lecture. Là, c'est pas une lecture récente, c'est pas un ouvrage récent. C'est un ouvrage donc d'il y a 10 ans d'Isaac Goetz. Donc il s'appelle Liberté et compagnie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises. Alors pourquoi j'ai choisi cette lecture? Parce que déjà à l'époque, c'est une lecture qui m'a profondément marqué pour des raisons personnelles dans le contexte où j'étais donc à l'époque. Et je pense effectivement, j'adhère énormément à la thèse qui est défendue par Isaac Goetz, de la nécessité d'avoir des salariés avec une certaine autonomie et à qui on fait confiance pour le bon développement d'une institution. Alors ça me tient d'autant plus à cœur que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est donc nous toujours sur 3 sites. Moi, je ne vois pas donc les gens tous les jours et je pense qu'il est nécessaire d'avoir confiance aux gens avec qui on travaille. Voilà. Et je pense que la confiance est réciproque d'ailleurs. Je me permets de conseiller donc cette lecture.
Redites-nous le titre.
Alors donc ça s'appelle Liberté et compagnie.
Liberté et compagnie.
Sachant qu'Isaac Goetz a publié d'autres ouvrages sur ce thème, c'est un collègue de la CP Europe, d'autres ouvrages sur ce thème depuis.
Super. Merci beaucoup Pascal
merci
Grandin de nous avoir rendu visite au Studio Module. Merci à vous Jérôme. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.